France Inter.
L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Thomas et bienvenue à tous. À la une de ce 13h. Deux enquêtes ouvertes après des menaces, de mort notamment, contre la présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme. Un pas nouveau et franchi, s'inquiète Ludovic Fria. Il est le président de l'Union syndicale de la magistrature. Vous l'entendrez. Sébastien Lecornu ne parvient à convaincre ni la gauche, ni le RN pour construire un budget de compromis. Les menaces de censure se précisent. Nous en parlerons avec notre invité, Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Nous serons en direct du Danemark où cette fois la plus grande base militaire du pays a été survolée la nuit dernière. Et puis nous serons également en direct de Kigali au Rwanda. Nous allons suivre les championnats du monde de cyclisme avec un nouvel espoir de médaille chez les femmes. Enfin nous irons à Nantes où l'on se prépare à réveiller l'orgue de la cathédrale 5 ans après l'incendie criminel qui avait dévasté l'édifice. Le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec des éclaircies qui seront bien présentes cet après-midi.
Oui, et ça sur presque tout le pays. On aura juste un petit peu plus de nuages sur la moitié ouest.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Deux enquêtes donc ouvertes après des menaces contre la présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy jeudi à 5 ans de prison ferme, menaces de mort sur les réseaux sociaux où la photo de la magistrate est publiée. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Service police-justice de France Inter. L'affaire est suivie notamment par le pôle national de lutte contre la haine en ligne.
Oui, un torrent d'insultes, de menaces de mort sur le web, arme de cyberharcèlement massif, une intensité qui ne faiblit pas. On appelle cela du doxing, normalement utilisé par les pirates informatiques. D'où l'ouverture hier soir de cette double procédure pour traquer les auteurs de ces messages de haine en ligne qui ciblent Nathalie Gavarino. L'Union syndicale des magistrats, l'USM, a reçu directement certains de ces messages. Son président Ludovic Fria était l'invité de France Info dans la matinée.
Des menaces de mort, des images de guillotine, des propos assez abjects qui nous rappellent les pires de notre histoire, du genre « elle sera tendue ». On en est là quand même, à force de désigner les juges, mais aussi les procureurs comme des ennemis politiques, c'est leur mettre une cible dans le dos. Et avec cette cible, certains se croient permis, se croient tout permis.
Et la crainte, désormais, c'est un passage à l'acte. Le parquet de Paris rappelle que le pôle national de lutte contre la haine en ligne a été créé après l'assassinat de Samuel Paty. Ces menaces sont passibles de 5 années de prison, 30 000 euros d'amende. L'enquête, elle, a été confiée à la police judiciaire parisienne, la BRDP, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Un homme de 76 ans, vous vous souvenez, avait été interpellé, condamné en avril dernier à Bobigny pour provocation au meurtre contre la présidente du tribunal qui avait prononcé la condamnation de Marine Le Pen.
Emmanuel Leclerc. La politique, il promet un gouvernement pour la semaine prochaine. Sébastien Lecornu dévoile ses premières orientations budgétaires dans une longue interview ce matin aux Parisiens aujourd'hui en France. Il fonce tout droit dans le mur, commente le député du Rassemblement National Thomas Ménager. Le RN n'a pas l'intention de laisser Sébastien Lecornu rester très longtemps à Matignon. Ce qui ouvre d'ailleurs un débat sur la nécessité de coalition et de compromis en France, on verra dans un instant ce qu'en dit la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Elle sera notre invitée. Écoutez d'abord la réaction de la députée européenne Horizon, Nathalie Loiseau, du groupe Renew au Parlement européen.
Nos voisins européens ont du mal à comprendre qu'il n'y ait pas déjà une coalition de partis responsables pour essayer de redresser la situation. Regardez l'Allemagne, vous avez en gros la droite et la gauche qui gouvernent ensemble. Et c'est le cas dans beaucoup de pays européens. Ça, ils le comprennent pas bien. Ils ont du mal à comprendre que les Français hurlent à l'austérité ou à la rigueur quand dans beaucoup de pays européens, on a pris des mesures beaucoup plus radicales pour sortir des déficits. Moi, j'appelle les partis politiques à la responsabilité.
Voilà, appel à la responsabilité, disait ce matin Nathalie Loiseau, invitée de la matinale de France Inter. Et bonjour Cyrielle Chatelain.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du groupe écologie à l'Assemblée nationale. On va parler de votre vision du compromis dans un instant. D'abord, à propos de ce Premier ministre favorable à davantage de justice fiscale, dit-il, mais sans taxes Zuckman, sans impôt sur la fortune, que vous inspirent donc ces premières pistes budgétaires ?
Alors moi, pour le moment, dans les premières pistes budgétaires de Sébastien Lecornu, je ne vois qu'une reconduction de la logique de François Bayrou. C'est la même trajectoire budgétaire et c'est se dire, effectivement, il dit il faut de la justice fiscale, mais il repousse toutes les mesures qui lui sont proposées, que ça soit la taxe Zucman, que ça soit l'ISF, et il n'en met aucune autre sur la table. Donc on voit bien qu'à la fin, les mots changent, mais la ligne politique reste.
Cela dit, Sébastien Lecornu rétorque qu'il veut répondre aux attentes sociales des Français en évitant un budget de rigueur. Vous ne lui faites pas confiance sur ses ambitions sociales ?
Non, je n'ai aucune confiance en Sébastien Lecornu. Et depuis qu'il a été nommé, il ne nous a donné aucun acte qui permettrait de commencer à se dire que nous pourrions lui faire confiance.
Ah, 6 milliards d'euros d'économies sur le train de vie de l'État, par exemple.
Mais moi, j'attends. Alors, déjà, premièrement, moi, j'attends la copie. Là où nous pouvons avoir un accord, c'est que je veux savoir exactement ce qu'il y a dans le budget. Où est-ce qu'il va aller chercher l'argent? Comment est-ce qu'il va tenir sa trajectoire? On sait déjà qu'il ne remettra pas en cause la réforme des retraites. Donc ça, il va chercher chez les Français. Il ouvre quand même la porte à une nouvelle réforme d'assurance chômage, c'est-à-dire aller encore chercher de nouveau chez les personnes les plus précarisées. Donc non, aujourd'hui, pour moi, les signaux sont au rouge.
Sur la méthode, le Premier ministre propose des compromis à l'Assemblée. Est-ce que les écologistes sont prêts à des compromis ou est-ce que vous n'y voyez toujours que de la compromission?
Mais les écologistes ont fait adopter plusieurs lois à l'Assemblée nationale, que ça soit la taxe Zucman qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, que ça soit un revenu garanti pour les agriculteurs ou l'interdiction des polluants éternels. Nous savons construire des majorités dans cette Assemblée. Mais ce que propose le Premier ministre, ce n'est pas un compromis. C'est de mettre sur la table, finalement, son budget. Et puis, à la fin, on le sait, vu qu'il refuse la taxe Zucman, vu qu'il refuse l'ISF, le retour de l'ISF ou l'ISF climatique, eh bien, il fera un 49-3. C'est juste qu'en fait, il veut changer la forme sans finalement changer de fond et changer de politique. Et ça, en fait, à un moment, ça suffit.
Lui dit qu'il aimerait ne pas utiliser le 49-3, justement. Est-ce que les écologistes voteront la motion de censure que les Insoumis entendent déposer dès mercredi? Ce sera la reprise de la session parlementaire.
Alors, le groupe écologiste et social a écrit à tous les présidents de groupe de gauche et on dit c'est simple. En fait, il y a deux options. Soit le Cornu renverse la table, soit il sera renversé. Depuis cette interview, on peut dire que, comme je vous le disais, tous les signaux sont en rouge. Il a l'air de s'entêter dans sa politique et dans ces cas-là, oui, nous devons travailler une motion de censure unitaire de toute la gauche. On ne peut pas avoir un gouvernement qui, pour la troisième fois, continue la même politique alors qu'elle est censurée par l'Assemblée et rejetée par les Français.
Motion de censure en vue, dites-vous. Cela dit, est-ce que vous êtes prêt chez les écologistes à donner un peu de temps à Sébastien Lecornu avant de le censurer?
Ça fait, en fait, depuis juillet 2024, c'est la même chose. Moi, peu importe qui s'appelle Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, la seule question qui compte, c'est quelle politique. Et on voit que finalement, c'est de nouveau les macronistes, de nouveau LR. On a quand même un Premier ministre qui, là, envisage le fait de valider le moratoire sur les énergies renouvelables refusé par l'Assemblée nationale sur la question énergétique. Donc oui, en fait, à ce stade, la question, c'est pas du temps. Ils ont eu beaucoup de temps. La question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à changer ?
Autre chose à propos de la gauche, toute la gauche, excepté LFI, se réunit aujourd'hui à Brame, c'est dans l'Aude, Marine Tondelier pour les écologistes, Olivier Faure pour le PS, Raphaël Glucksmann, Place Publique, et Fabien Roussel pour les communistes. En vue des prochaines échéances électorales, peut-il y avoir une union de la gauche sans les insoumis?
Eh bien, vous l'avez dit, Marine Tondelier est... En ce moment même, elle est arrivée à Brame à ce rassemblement. Et ce qu'elle va dire, c'est ce que je vous dis, c'est non, il faut une union de toute la gauche. Aujourd'hui, on y a un risque d'extrême droite extrêmement importante. On voit bien que le macronisme est rejeté. Il faut donc une alternative crédible de gauche et unie. C'est indispensable.
Eh bien, merci. On a bien entendu l'union de la gauche, selon vous, Cyrielle Chatelain, et de toute la gauche. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Écologie à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup et bonne journée. L'association SOS Chrétien d'Orient, proche de l'extrême droite, est dans le collimateur du parquet national antiterroriste. Plusieurs cadres sont suspectés de complicité en Syrie, auprès des milices de l'ancien président Bachar el-Assad. Une enquête est donc ouverte pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est une information de nos confrères de France Info. Des perquisitions sont menées au sein de cette association, proche également des milieux catholiques ultra-conservateurs. Aurélien Tirard.
Ces perquisitions ont visé le siège de SOS Chrétien d'Orient à Boulogne-Billancourt, près de Paris, et dans 5 autres lieux, ailleurs en région parisienne et en Bretagne, dans d'autres associations et sociétés, toutes en lien avec SOS Chrétien d'Orient. Pendant 3 jours, de mardi à jeudi, les enquêteurs ont saisi une masse très importante de données, dont certaines doivent être traduites de l'arabe. Les gendarmes spécialisés vont les exploiter ces prochaines semaines. Le but, c'est prouver que les soupçons portant sur l'association proche de l'extrême droite sont bien étayés, à savoir si les milliers d'euros de dons qu'elle a récoltés depuis 9 ans, officiellement pour des opérations humanitaires en Syrie, n'ont pas servi aux forces de défense nationale syrienne, une milice pro-Bachar al-Assad. Ce groupe paramilitaire est accusé d'avoir pillé des villages, bombardé des civils et entraîné des enfants au combat en Syrie. En France, plusieurs dirigeants de SOS Chrétien d'Orient ont été entendus pour l'instant comme témoins. Pour l'heure, aucune garde à vue n'a eu lieu.
Information santé, il va falloir s'y habituer. Le Covid est de retour. Un quart des tests effectués en ce moment se révèlent positifs. Il n'y avait qu'un cas sur 10 au début de l'été.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Et encore des drones inconnus, observés la nuit dernière au Danemark, cette fois à proximité d'une importante base militaire danoise dans le centre du pays. Je rappelle que cette semaine, plusieurs aéroports danois ont été survolés, toujours par des drones non identifiés. Bonjour Sébastien Baer. Est-ce que vous m'entendez Sébastien Baer, en direct et envoyé spécial au Danemark, vous êtes bien là ? Sébastien Baer, que je n'entends pas. On va essayer de le retrouver dans une poignée de secondes. Téhéran vient de rappeler ses ambassadeurs en France, mais aussi en Allemagne et au Royaume-Uni. Le régime iranien veut les consulter avant le rétablissement ce soir des sanctions de l'ONU contre l'Iran. L'Iran accusé d'enrichir son uranium à des fins militaires. Correspondance à Téhéran de Siavosh Ghazi.
Le président iranien Massoud Pezeshkian a révélé que les États-Unis avaient exigé que l'Iran leur livre la totalité de son stock d'uranium enrichi pour obtenir un délai supplémentaire de seulement 3 mois pour mener des discussions diplomatiques. Nous avons refusé cela car dans 3 mois, ils vont présenter de nouvelles exigences, a déclaré le président iranien. Téhéran a convoqué ses ambassadeurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni pour consultation. L'Iran a également affirmé que le récent accord signé avec l'Agence internationale d'énergie atomique qui prévoit le retour des inspecteurs de l'agence onusienne ne sera plus appliqué. Certains députés ont même demandé que l'Iran quitte le traité de non-prolifération, mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise dans ce sens. Les conséquences sont lourdes pour l'économie iranienne. La monnaie du pays a perdu 15% de sa valeur depuis quelques jours et tous les experts prévoient que la chute va se poursuivre, ce qui va encore aggraver l'inflation qui dépasse déjà les 50%. Beaucoup craignent également qu'Israël et les États-Unis utilisent le retour des sanctions onusiennes comme prétexte pour mener de nouvelles frappes contre l'Iran.
Siavosh Ghazi en Iran. Et nous avons retrouvé Sébastien Baer en direct du Danemark. Bonjour Sébastien.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On parlait donc de ces drones inconnus observés une nouvelle fois dans le ciel du Danemark. Cette fois, c'est à proximité d'une importante base militaire danoise dans le centre du pays. Vous êtes devant les portes de cette base militaire de Karup. C'est même la plus grande base du pays.
Oui Eric, c'est évidemment un site hautement stratégique qui s'étend sur 3000 hectares. L'accès est protégé par un long grillage de 17 kilomètres et surveillé par des caméras. Tous les hélicoptères des forces armées danoises sont stationnés sur cette base où travaillent 3500 personnes chargées notamment de la surveillance de l'espace aérien du Danemark. Un porte-parole de la police confirme que 1 ou 2 drones ont survolé la base pendant plusieurs heures. Les engins officiellement d'origine inconnue ont été repérés en début de soirée. Ils n'ont pas été abattus ou interceptés. L'aéroport voisin de Midjid a dû être fermé, mais brièvement, précisent les autorités. Comme après les incidents de ces derniers jours, une enquête a été ouverte. La police demande aux témoins de lui communiquer leurs éventuelles photos ou vidéos des drones. Les autorités qui évoquent des actions coordonnées réalisées par des opérateurs professionnels. La Russie n'est pas nommément désignée, mais le gouvernement s'interroge évidemment sur le rôle joué par Moscou après ces survols de drones.
Sébastien Baer, envoyé spécial en direct du Danemark. Voilà, l'autorité palestinienne à court d'argent. Ses recettes fiscales étant étant retenu par Israël, eh bien pour lui venir en aide, 12 pays, dont la France, promettent une première aide financière à l'autorité palestinienne d'un montant de 170 millions de dollars. En Cisjordanie occupée ce matin, les forces israéliennes ont détruit la maison d'un Palestinien. Il était accusé d'une attaque au début du mois à Jérusalem-Est. Cette attaque avait fait 6 morts. Les sports avec les championnats du monde de cyclisme. C'est en ce moment à Kigali, au Rwanda. Le départ de la course des femmes a été donné il y a un peu plus d'une heure. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Kigali. Alors depuis le début de la semaine, la France a décroché 4 médailles et aujourd'hui les espoirs reposent sur Pauline Ferrand-Prévot, récente vainqueur, on mettra un E à vainqueur, récente vainqueur du Tour de France.
Oui, et qui avait en plus gagné Paris-Roubaix en avril dernier. C'est tout sauf anecdotique parce qu'il y a des pavés aujourd'hui sur le parcours. On est actuellement justement dans cette côte pavée qui fait si mal aux jambes depuis le début de la semaine. La côte de Kimi Urura, effectivement Pauline Ferrand-Prévot, grande favorite. Mais j'ai envie de dire que c'est toute l'équipe de France qui joue pour la gagne aujourd'hui. Elles sont 7 françaises pour l'instant toujours aux avant-postes dans le peloton. On les voit plutôt sereines, à commencer par Evita Music par exemple, la grande un peu de la FDJ Suez. Pauline Ferrand-Prévot n'a pas bougé pour l'instant d'un pouce. Il y a une coureuse qui est partie en éclair, c'est l'Autrichienne Karina Schrempfer, mais a priori pas du tout une candidate au podium. Donc eh bien, les Italiennes qui contrôlent le peloton ont laissé filer cette Autrichienne, compte 2 minutes 55 d'avance sur le peloton. 122 km encore à parcourir, Eric, et il y a déjà eu de nombreux abandons. On a l'autre favorite, par exemple, la Mauricienne Kim Le Cort, qui n'a déjà plus aucune coéquipière. Ça va être une course où on va finir avec peu de coureuses.
Eh bien, on suivra Pauline Ferrand-Prévot, Fanny Lechevestrier en direct de Kigali. Il y aura aussi du rugby cet après-midi. Dans un quart d'heure débutera ce qu'on appelle la petite finale de la Coupe du Monde féminine. La France face à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse de Twickenham en Angleterre. Et puis à 17h, la grande finale, elle, qui opposera les Anglaises au Canada. Nous sommes à un peu plus de 5 mois des Jeux paralympiques d'hiver et aujourd'hui le comité international a décidé de réintégrer la Russie et le Bélarus comme membres de plein droit. Cela dit, la présence des athlètes russes et bélarusses à Milan-Cortina est encore loin d'être garantie. Nous partons à Nantes maintenant pour refermer ce journal. 5 ans après avoir été détruite par un incendie criminel, la cathédrale de Nantes rouvrira ses portes ce soir. Et parmi les temps forts des cérémonies, ça va se durer tout le week-end, il y aura ce qu'on appelle le réveil de l'orgue à l'image de Notre-Dame de Paris il y a quelques mois. C'est le plus grand orgue de chœur de France. Il date du 19e, réalisé par la célèbre manufacture nantaise Beuchet-Desbières. Eh bien, à Nantes, Leïla Mechaouri a rencontré l'arrière-petit-fils du créateur.
Bientôt l'heure du réveil de l'orgue de la cathédrale. Et avec lui, c'est un peu l'histoire de la famille Beuchet qui va résonner de nouveau. François Beuchet est l'arrière-petit-fils de Louis de Bière, l'homme qui a créé et réalisé cet instrument au XIXe siècle.
Ça va être merveilleux de réentendre l'orgue en même temps qu'on rouvre la cathédrale. Ça aurait été terrible de rouvrir une cathédrale sans instrument. Ça aurait été, mais... triste.
L'amour de l'orgue de père en fils, génération après génération. La manufacture d'orgue Beuchet-Desbières, fondée en 1862, a été une institution nantaise pendant plus d'un siècle. Et au début des années 70, c'est le père de François Beuchet qui est chargé de restaurer le grand orgue de la cathédrale. Grand orgue dévoré par les flammes lors de l'incendie il y a 5 ans.
C'est une deuxième mort de mon père en fait. C'est une déchirure. Puis ça se refermera jamais.
L'orgue de chœur, lui, a été sauvé parce que la console était séparée du buffet en bois. Seule la console a brûlé et elle a été totalement restaurée.
Il assumera parfaitement, seul, l'absence de son grand frère. Pour combien d'années ? Dieu seul le sait.
Le grand orgue de la cathédrale de Nantes doit être intégralement reconstruit dans les prochaines années. En attendant la fin des travaux, un grand voile blanc recouvre sa tribune.
Leïla Mechaouri, ici Loire-Océan. Avant la météo, retenez que l'état de catastrophe naturelle est bien reconnu pour 127 communes du sud-est et de l'ouest aussi de la France, après les intempéries de dimanche dernier et lundi aussi. Des intempéries qui ont fait un mort en Bretagne. Ça concerne les départements des Côtes d'Armor, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var. Et cette reconnaissance de catastrophe naturelle, eh bien, elle permet de lancer rapidement des démarches d'indemnisation. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les éclaircies cet après-midi, elles vont gagner du terrain.
Oui, les nuages se morcellent et laissent place à un petit peu plus de lumière, et ça sur les trois quarts du pays. Le ciel est un petit peu plus ensoleillé près de la Méditerranée comme ce matin. En revanche, il va rester voilé sur le quart sud-ouest. Et puis une nouvelle perturbation va arriver dans l'après-midi, fin d'après-midi, hein, sur la Bretagne. Perturbation faiblement active qui apportera surtout des nuages. On aura quand même peut-être quelques gouttes sur le Finistère.
Les températures un peu plus douces.
Oui, même si on reste encore sous les normales de saison, avec une moyenne de 15 à 20 degrés sur la moitié nord. La valeur la plus basse, 15 degrés, elle est pour Langres, dans le Grand Est. 19 à 26 degrés, ça c'est pour la moitié sud. La maximale, 26 degrés, on la retrouve à Ajaccio.
Les prévisions de Céline Dacosta.